vous invite à voir sous les yeux Deutéronome 7. Et pendant que vous trouvez ça, je me permets de mentionner une formation qui pourrait vous intéresser, prévue pour le samedi 7 décembre à l'Institut public de Bruxelles, animée par le pasteur Hicham. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez, vous avez déjà pu apprécier ces enseignements. Je vous encourage à bénéficier de ça. Ça porte sur comment parler de l'Évangile à nos amis musulmans. Et peut-être que vous voudriez aussi prendre des dispositions pour le début de 2020. Dans notre filière du samedi à l'Institut public de Bruxelles, les pages du centre, du magazine, et puis pour les cours en semaine à partir de février, la troisième de couverture, pour vous intéresser. Je pense qu'il y a des exemplaires de ce magazine dans le hall d'entrée. Deutéronome 7. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérisiens, les Héviens et les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu les aura livrées et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras point de grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton moût, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir que ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera, et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point, et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Je ne sais pas comment vous avez réagi à cette lecture dans Deutéronome 7. Ce passage et plus largement la question de l'extermination des Cananéens pose problème pour toutes sortes de catégories de personnes. Richard Dawkins, biologiste athée célèbre et auteur du livre « Pour en finir avec Dieu », décrit Dieu comme une brute, entre autres du fait d'être génocidaire. La théologue française Michel Onfray est également sévère dans sa critique du génocide, de l'ethnocide, de la boucherie généralisée perpétrée par un Dieu belliqueux menant le combat sans merci, capable d'exterminer les ennemis sans état d'âme. Il laisse penser que les Cananéens étaient innocents. Ce type d'attitude n'est pas nouvelle. Dès le deuxième siècle après Jésus-Christ, Marcion de Sinope affirmait qu'il y avait deux dieux. Celui de l'Ancien Testament qui est violent, qui est cruel et qu'il faudrait rejeter par opposition à celui qu'on trouve chez Jésus et Paul qu'on devrait adorer. Je ne dis pas que cette question de l'extermination des Cananéens soit facile. Et je comprends que des personnes de nos milieux posent des questions. Mais il y a des façons de poser des questions qui glorifient Dieu et d'autres façons qui ne sont pas admissibles. Je ne peux pas prendre le temps maintenant pour démontrer que la Bible est la parole de Dieu. J'ai fait cette démonstration, en l'occurrence, il y a 5 semaines, au 3e étage, dans le cadre de formation et foi. Et je vais présupposer cette démonstration. Puisque c'est Dieu qui nous parle dans la Bible, nous ne pouvons pas avoir ce type d'attitude. Je vous invite à écouter les propos d'un ancien pasteur évangélique. Je lis dans un livre publié par une maison d'édition évangélique française. On est tous d'accord sur le fait que l'épuration ethnique est condamnable. Si quelqu'un déclare que Dieu lui a donné l'ordre de tuer des gens, on le prend pour un fou. Pourtant, il existe des endroits dans la Bible où Dieu ordonne à son peuple de tuer des femmes et des enfants innocents. Et puis, il poursuit en suggérant qu'une personne réfléchie et honnête devrait se demander si elle peut véritablement accepter ce qu'elle lit dans la Bible. Là, il y a deux problèmes. Une attitude hautaine qui érige le lecteur au-dessus de la parole de Dieu, et puis une attitude irresponsable qui néglige de lire attentivement la parole de Dieu. En étudiant le texte ce matin, nous constaterons qu'il n'est pas question d'une épuration ethnique en tant que telle, mais de quelque chose de plus choquant et de plus difficile encore à digérer. Il est question de réalités auxquelles nous devons chacun d'entre nous dans cette salle faire face. Prions. Notre Dieu, notre Père, puisque c'est toi qui t'exprimes dans les Écritures, nous te demandons de nous accorder l'attitude humble qui t'honore. Que nous tremblions même à ta parole. Éclaire-nous à propos de ce sujet difficile et donne-nous de recalibrer notre pensée et notre vie en fonction de ta révélation parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Dans notre passage, Dieu insiste non sur une épuration ethnique en tant que telle pour les Cananéens, mais sur une adoration pure chez les Israélites. C'est notre premier point ce matin. Peut-être que vous voudrez profiter du verset du feuillet pour suivre le plan. Les Israélites sont appelés à être un peuple pur du fait d'être graciés par Dieu. Les Israélites sont appelés à être un peuple pur du fait d'être graciés par Dieu. La raison pour laquelle il fallait exterminer les Cananéens, c'est que la pureté du peuple de Dieu était en cause. C'est fondamentalement Dieu lui-même qui orchestre l'enlèvement des Cananéens du pays. Verset 1er, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Mais le verset 2 précise également que les Israélites allaient devoir dévouer par interdit les Cananéens ou voués à la destruction. Mais justement, ça a fait couler de l'encre et un commentateur évangélique conservateur assez réputé considère que cette expression veut dire simplement renoncer à, pas forcément détruire. Et puis il était son point de vue en faisant appel à la suite. Les Cananéens pouvaient rester vivants. Il fallait simplement éviter de conclure des traités avec eux, éviter de se marier avec eux. Mais Lévitique 27-29, aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Ensuite, je vous invite à lire avec moi quelques versets de notre passage. 7-16, tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te livrer. Verset 20, l'Éternel ton Dieu enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont, qui se cacheront devant toi. Verset 22, l'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Verset 23, l'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Verset 24, il livrera leur roi entre tes mains, tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Enfin, le fait que 7 nations sont citées, le verset 1er souligne ce chiffre, 7 nations, c'est le chiffre de la complétude. Ça permet de comprendre que c'est la totalité justement des nations qui sont visées. Le sens des premiers versets de notre passage, c'est donc, il va falloir détruire intégralement ces personnes, parce que la pureté de votre adoration est en cause. Oui, il va falloir être radical. Tant que ces Cananéens seront là, il y aura des risques, des dangers politiques, dangers sociaux, le risque que vous finissiez par conclure des alliances avec eux, verset 2, que vous vous mariez avec eux, verset 3, et ce serait catastrophique pour la pureté de votre adoration, de votre consécration, de votre amour pour Dieu. La destruction totale, c'est nécessaire. Et ne laissez pas de traces de leur idolatrie. Verset 5, renversez leurs autels, brisez leurs statues, abattez leurs idoles, brûlez au feu leurs images taillées, enlevez tout ce qui pourrait être un piège. Mais j'entends peut-être des personnes dans la salle élever humblement une objection. Je peux comprendre l'idée que les Israélites devaient être un peuple pur. Mais il est quand même question ici, n'est-ce pas, de tuer des personnes innocentes? Réponse, innocente, non. Et je vous invite à avancer de deux chapitres, Deutéronome 9 maintenant, Deutéronome 9, versets 4 et 5. Deutéronome 9, verset 4. « Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. » Écoutez également Genèse 15. Vous pouvez simplement écouter si vous le souhaitez, mais je vais lire les versets 13 à 16. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens, des habitants de Canaan, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Dieu a fait preuve de patience pendant 400 ans. Mais dites-vous, ces Cananéens n'étaient pas au courant de qui était le Dieu des Israélites, cet unique vrai Dieu. Au contraire, lisez Exode 15:15, lisez Josué 2, ils étaient au courant de l'Exode hors de l'Égypte et cela les a effrayés. Plus tard, Josué 5, ils ont entendu parler de la traversée du Jourdain. Innocent. Non. Et jetez un œil avec moi à Deutéronome 12, versets 30 et 31. Deutéronome 12, verset 30. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je vais faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu. Feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Sacrifier ses propres enfants à de faux dieux, ça n'est pas moralement neutre. C'est abominable, pour citer le terme qui revient à plusieurs reprises à la fin de notre passage du chapitre 7. Et il était d'une importance capitale que les Israélites ne se laissent pas piéger par ce type de religion immorale, idolâtre. Pourquoi si capital? Eh bien, n'oublions pas le contexte de ce que nous avons vu dans les chapitres 5 et 6. Chapitre 5, le premier commandement. Pas d'autres dieux. Chapitre 6, la semaine passée. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. C'est clair, c'est net, c'est radical. Pourquoi si radical? N'oublions pas ce que nous avons vu dans le contexte. Le premier commandement est immédiatement précédé par ces mots. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force est précédé par ces mots. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. La logique est implacable. S'il n'y a qu'un seul Dieu, et si les Israélites sont au bénéfice de sa grâce du fait d'avoir été libérés de l'esclavage, leur allégeance doit être exclusivement portée vers lui. Ils doivent être manifestement son peuple à lui. Regardez le verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. L'expression « un peuple qui lui appartient » est technique et connote « trésor suprême, bien précieux ». Il y a quelques années, notre fille Clara avait un doudou, un petit lapin dont elle était quasi inséparable. Elle reniflait tout le temps, elle trimbalait avec elle partout. C'était son trésor suprême. Pourquoi les Israélites sont-ils le trésor suprême de Dieu? Du fait de leur noblesse morale? Nous avons déjà lu au chapitre 9 que ce n'est pas le cas. Du fait de leur supériorité sociologique? Verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Pourquoi alors? Verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Résumé des versets 6 à 8, Dieu aime les Israélites parce qu'il aime les Israélites. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il les aime? Parce qu'ils sont supérieurs? Non. C'est parce qu'il les aime. Oui, mais ça s'appelle la grâce. C'est la pure grâce. Et la grâce, verset 11, est motivante pour la mise en pratique des commandements de Dieu. Les Israélites sont appelés à être un peuple pur, oui, du fait d'être graciés par Dieu. Et nous, dans tout cela, nous qui ne sommes pas des Israélites, mais qui sommes croyants en Jésus-Christ et le peuple de Dieu dans un nouveau régime, ce que la Bible qualifie de nouvelle alliance. D'un côté, soulignons que aucun commandement d'exterminer tel ou tel groupe de personnes ne s'applique à nous. Après qu'on a découvert l'Amérique, certains d'entre les colons puritains, pionniers dans les colonies du Nouveau Monde, ce que nous appelons aujourd'hui les États-Unis, certains ont envisagé les indigènes comme des Cananéens à exterminer pour s'emparer de leur terre. Cela, c'est présupposé à tort que nous, chrétiens, correspondons aux Israélites et que les États-Unis correspondent à Canaan. On comprend l'importance de bien interpréter les Écritures. D'un autre côté, à certains titres, il y a des correspondances qu'il faudrait reconnaître entre les Israélites et nous croyants de la Nouvelle Alliance. Et puisque nous avons bénéficié il y a 2 semaines d'une prédication sur Tite chapitre 2, nous sommes particulièrement en mesure de bien comprendre ces correspondances. Vous vous souvenez de cette prédication apportée par Florent Varac? Je vous rappelle, car la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Nous avons été rachetés de toute iniquité en vue d'être un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Vous voyez les parallèles avec notre passage. Mais dans Tite 2, purifié par lui, purifié par qui? Eh bien, par Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, en subissant la punition que nous méritions du fait de notre rébellion contre Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés à être un peuple pur, du fait d'être gracié par Dieu. Il nous incombe d'être impitoyables en éliminant les idoles de notre vie, quelles qu'elles soient, pornographie, confort matériel, prestige en matière de carrière, commérage, accès de colère, travail au noir. Nous ne pactisons pas avec l'ennemi. Nous nous abstenons des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous ne concluons pas d'alliance avec Satan. Pas de mariage avec des non-croyants. Le Nouveau Testament est clair sur ce point. Si tu es un croyant marié avec une non-croyante ou une croyante mariée avec un non-croyant, reste dans ce mariage, à moins que ton conjoint ne souhaite partir. Ta visée maintenant est de gagner ton conjoint au Christ de par ton comportement saint. Soyons sans complaisance en nous gardant d'idoles. Parfois, cela va vouloir dire des démarches qui ressemblent un peu à ce que nous lisons dans le verset 5. Cela va vous paraître bizarre pour des raisons culturelles, mais je ne pense pas que ce sera trop difficile au-delà de votre portée pour comprendre. Mais une illustration de ma propre vie, du début de ma vie chrétienne, j'ai dû faire face au fait que certaines cravates, aujourd'hui, je ne suis pas spécialement intéressé par les cravates, mais à l'époque, certaines cravates étaient des idoles pour moi. Je parle de cravates, essayez de comprendre, des cravates de club, des cravates qui indiquaient une certaine prouesse sportive associée à certains accomplissements, des cravates d'institutions académiques. Et à force de les porter, je communiquais mon désir d'être admiré. Je les ai jetées toutes vers le début de ma vie chrétienne, et combien j'en suis heureux. C'était nécessaire pour moi, idolâtrie. Pourquoi des démarches radicales pour mettre à mort le péché? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous sommes au bénéfice de sa grâce, du fait d'avoir été libérés de l'esclavage du péché. Notre allégeance doit être exclusivement portée vers lui. Nous devons être manifestement son peuple, à lui. Nous sommes le trésor suprême de Dieu. Je trouve ça toujours marrant après toutes ces années, mais un étudiant que nous avons eu pendant pas mal de temps à l'Institut, et un étudiant régulier pendant pas mal d'années aussi, s'appelle Trésor, ou Trésor David. Mais pourquoi est-ce que lui devrait avoir le monopole? Moi, je vois dans la salle une trésor Anne et un trésor Edwin. Je vois un trésor André. Je vois un trésor Boris. Et collectivement, nous sommes le trésor de Dieu, le bien propre de Jésus-Christ. Le peuple qui lui appartient, purifié par lui, au bénéfice de la grâce qui nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Mais contrairement aux Israélites, nous ne le faisons pas en évitant de côtoyer des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et pourtant, le Nouveau Testament nous avertit. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À nous d'être sel et lumière dans ce monde et non pas de nous laisser façonner par le monde. Ce n'est pas parce que nous sommes graciés que nous ne craignons plus Dieu. Et cela nous amène à notre second point. Les Israélites sont appelés à être un peuple béni du fait de craindre Dieu. Les Israélites sont appelés à être un peuple béni du fait de craindre Dieu. Nous découvrons dans cette seconde partie de notre passage que dans la pratique, ce n'est que progressivement que les nations seront chassées du pays. Même s'il y a dans un sens une conquête foudroyante initiale. Verset 22 va s'appliquer. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Il serait dangereux d'éliminer toutes les nations d'un seul coup. Car le peuple israélite devra se multiplier et remplir la terre, sinon le pays pourrait retourner à un état plus sauvage, avec des bêtes sauvages qui se multiplieraient et leur vie serait en danger. Nous comprenons donc que des Cananéens seront présents dans le pays pendant pas mal de temps. Cela voudra dire se garder d'idolâtrie dans la durée. Et quelle bénédiction en perspective pour les Israélites, en cas d'obéissance. Versets 12 à 15, croissance numérique, bonne santé, fécondité, abondance agricole, succès militaire. Par contre, si dans la pratique les nations restent longtemps dans le pays, cela entraîne forcément le risque qu'ils n'aillent pas jusqu'au bout en chassant les Cananéens. Le risque même d'avoir peur d'elles, on voit ça à partir du verset 17. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. Avoir peur des nations, ce serait le monde à l'envers. Après la sortie d'Égypte, c'était les nations qui avaient peur du Dieu d'Israël. Je vais lire deux versets dans Exode 15. Les chefs d'Édom s'épouvantent et un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. C'est Dieu lui-même qu'il faudrait craindre. Verset 21. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Donc voici la bonne réaction, c'est reconnaître que Dieu est ce Dieu-là, grand et terrible. Craindre Dieu dans ce sens-là, dans le sens de se soumettre à lui, dans le sens de reconnaître qu'il est redoutable, qu'il est celui à qui on doit obéir. Et dans le cas contraire, si jamais les Israélites ne faisaient pas preuve d'obéissance en craignant Dieu, Eh bien, et j'étais frappé par ça durant ma préparation cette semaine. Beaucoup de commentateurs ont du mal à faire face à la réalité de ce qui se dégage clairement du texte. C'est vrai que ça risque de nous donner des sueurs froides. Je vous avais prévenu que ce passage parle de quelque chose de plus choquant que l'épuration ethnique, de quelque chose de plus difficile à digérer. Il y a la menace pour le peuple de Dieu, pour les Israélites, qu'ils subissent le même sort que les Cananéens. C'est l'un des fils conducteurs même de tout le passage, particulièrement dans cette seconde partie, mais pas seulement. Voyez avec moi le verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Ou verset 10. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent. Et il les fait périr. Verset 14 dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Mais on a envie de dire, mais je croyais qu'ils étaient déjà bénis plus que tous les peuples. Mais non, c'est conditionné. Ils doivent maintenir ce statut-là. Par l'obéissance, c'est conditionné. Verset 12. Si vous écoutez cette ordonnance, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré tes pères, il t'aimera, te bénira, te multipliera. Si. Si tu n'es pas encore persuadé que il y a le risque que le peuple de Dieu soit traité comme les Cananéens. Je t'invite à aller encore un verset, le verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Là, ça, c'est l'expression que nous avons vue au verset 2. Mais maintenant, elle s'applique potentiellement aux Israélites. Si nous ne sommes pas choqués par cela, c'est peut-être parce que nous pensons que les Israélites seront à la hauteur des exigences morales de Dieu. Il suffira d'obéir à Dieu et le peuple gardera son statut de trésor, d'aimé de Dieu, de béni. Tout ira bien. Un tel optimisme n'est pas justifié. Lisez la suite. Les Israélites vont échouer sur toute la ligne. Alliance avec les Gabonites, mariage avec les Cananéens, déchaînement d'idolâtrie, même le sacrifice de leurs enfants par le feu. Et nous, sommes-nous intrinsèquement supérieurs au plan moral, supérieurs par rapport aux Israélites, par rapport aux Cananéens? Au final, ce passage parle de quelque chose de plus choquant que l'épuration ethnique, de quelque chose de plus difficile à digérer. Il est question d'une réalité à laquelle nous devons, chacun d'entre nous dans cette salle, faire face, à savoir le sort que nous méritons intrinsèquement, la condamnation en enfer pour toute l'éternité. Au regard des Écritures tout entières, ce passage anticipe sur cela, sous forme d'ombre, de maquette, d'image. Nous sommes censés être choqués par l'extermination des Cananéens, annonciatrice d'un jugement plus terrible encore. Mais je me permets de parler d'une cananéenne, d'une prostituée nommée Rahab. Lorsqu'elle a pris connaissance de l'Exode, cela l'a effrayée, mais pas seulement. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Une confession de foi, elle a placé sa confiance en Dieu. Elle n'a pas été condamnée, elle a été sauvée de la destruction et elle a commencé à faire partie des personnes sauvées aussi du jugement, de la fin des temps, de la condamnation ultime de l'enfer. Elle a été mise au bénéfice de la mort de Jésus-Christ sur la croix, à sa place. Car au bout du compte, c'est là la bonne nouvelle du christianisme, nous qui avons placé notre confiance en Dieu en le craignant. Nous sommes bénis au sens le plus fort, le plus profond, et cela pour toute l'éternité. Si vous n'avez pas encore engagé la démarche de Rahab, en quelque sorte, en vous soumettant à Dieu, ne quittez pas cette salle avant de vous mettre en règle avec Dieu. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, venez me voir ou parlez avec quelqu'un d'autre. Nous avons déjà parlé ce matin de l'importance de bien interpréter les Écritures. C'est vrai également dans cette seconde partie. Parce qu'encore une fois, il y a des éléments de continuité, de discontinuité, de convergence, de divergence entre les Israélites et nous. Divergence d'un côté, la bénédiction, oh c'est glorieux, c'est tellement libérateur, la bénédiction fondamentale dont nous jouissons ne dépend pas de notre comportement. Oh, quel soulagement! Si nous ne distinguons pas l'ancienne alliance qui régissait la relation entre Dieu et les Israélites de la nouvelle alliance qui régit la relation entre Dieu et nous qui avons la foi en Jésus-Christ, nous pouvons nous fourvoyer de façon désastreuse. Nous pourrions penser que rester membre du peuple de Dieu dépend de notre obéissance. Oh, si c'était le cas, aucun d'entre nous dans cette salle resterait croyant plus de 5 secondes. Mais l'obéissance parfaite de Jésus compte en notre faveur. Je cite l'apôtre Paul en disant que nous sommes trouvés en Christ, non pas avec une justice qui serait la nôtre et qui provient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui provient de Dieu par la foi. Sommes-nous à la hauteur pour rester le trésor de Dieu? Non, pas en nous-mêmes, mais le Christ l'est, et nous sommes revêtus de la justice du Christ. Divergence encore parce qu'on pourrait tomber dans le piège de penser que les bénédictions que nous recevons sont les mêmes que celles de l'ancienne alliance. Par exemple, verset 12, verset 14, en cas d'obéissance, les Israélites allaient avoir beaucoup d'enfants. Il n'y aurait pas de stérilité, lisons-nous. Selon les termes de la nouvelle alliance, qu'en est-il? Eh bien, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Nous avons la perspective d'habiter dans une nouvelle création parfaite dans l'avenir. Mais avons-nous reçu cette promesse de fécondité? Non. Et on ne peut pas dire de façon simpliste et automatique qu'un couple croyant qui n'a pas d'enfant est un couple désobéissant. Ou un couple qui a un enfant handicapé. Ou encore, en regardant ce passage, dire qu'une croyante qui est frappée d'une maladie débilitante, une croyante désobéissante. Non, le régime a changé. Au début des années 90, j'ai parlé avec une croyante qui n'allait pas bien dans sa foi. Et elle m'a expliqué qu'elle se sentait déçue par Dieu. Et en grattant un peu, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Les circonstances qu'elle vivait étaient en deçà de ce qu'elle avait espéré. Mes souvenirs sont un peu vagues, mais si je me souviens bien, son espoir portait sur une relation particulière qu'elle aurait souhaité avoir avec quelqu'un, et ça n'a pas marché. Mais ces circonstances espérées n'étaient pas des circonstances promises par Dieu, promises aux croyants de la Nouvelle Alliance. Dieu n'avait pas été infidèle. Ce n'était pas approprié qu'elle parle en termes d'être déçue par Dieu. Mais la mauvaise compréhension de la révélation de Dieu qu'avait cette jeune femme était en train de l'éloigner de Dieu. Dommage. Là, nous sommes en train de parler de ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. Et là encore, je vous encourage à profiter de ce magazine pour lire un article utile à ce propos, si vous souhaitez vous informer davantage de cela. Divergence, mais aussi convergence entre les Israélites et nous. Lorsque nous vivons de façon à reconnaître que notre Dieu est le Dieu grand et redoutable, lorsque nous le craignons dans ce sens-là, lorsque nous lui obéissons, cela apporte sa propre récompense, bénédiction. On connaît plus de joie, plus de paix. On est plus conscient d'être le trésor de Dieu. On est plus conscient du privilège d'être gracié en Jésus-Christ, donc béni. Je conclue. Vous voyez que les difficultés que nous pouvons avoir en ce qui concerne l'extermination des Cananéens pâlissent à mesure que nous prenons le temps de lire le texte dans son contexte et surtout à mesure que nous contemplons la croix. Nous avons reconnu que le problème n'est pas l'épuration ethnique, mais au final, le problème plus grave de la condamnation éternelle qui attend toute personne qui fait preuve d'idolâtrie. Mais c'est un problème qui trouve en Jésus-Christ une solution glorieuse. Et nous avons vu qu'il est impossible de parler de Dieu comme si c'était un monstre, une brute, cruelle, sans miséricorde. Certes, on peut parler d'un Dieu saint qui prend le péché au sérieux, qui doit condamner le péché. Mais en même temps, notre Dieu est bon et plein de miséricorde. Nadir a compris cela. Nadir est un Français d'origine nord-africaine. Vous pourrez trouver son histoire émouvante sur le site de la Révolution. Il a connu une vie difficile. Il a, je cite, « passé la plupart de mon enfance et une partie de mon adolescence dans des foyers à cause d'un climat familial défavorable pour éduquer des enfants. » Je pense que c'est un euphémisme. Y compris un père en prison. Il a été renvoyé de son collège. Il est passé par la drogue, le vol, la violence. Et puis, il a découvert la grâce dans l'Évangile. Nadir, c'est quelqu'un qui a compris cette grâce et qui s'en délecte à fond. C'est quelqu'un qui a été transformé par cette grâce, affranchi des péchés qu'il pratiquait régulièrement et desquels il était esclave, explique-t-il. C'est quelqu'un qui a compris qu'il sera sauvé grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Nous allons nous pencher là-dessus dans quelques instants. Il est très au clair sur le fait que Jésus a été condamné sur la croix à sa place. C'est quelqu'un qui a compris qu'un croyant fait partie du peuple de Dieu. Et oui, il appartient à ce peuple de plus en plus pur du fait d'être gracié par Dieu, ce peuple béni du fait de craindre Dieu. Nadir, appelons-le plutôt trésor Nadir.